Merci à vous d'être venu pour écouter et voir, ce qui est beaucoup plus rare, Jean-Yves Lacroix, que je vois moi aussi pour la première fois, hein, après l'avoir vu des images animées sur Internet. Alors, je suis très content, vraiment moi personnellement et au titre de Libré, d'accueillir Jean-Yves Lacroix, qui a été, vous savez, nous on lit des dizaines et des dizaines de livres avant l'été, pendant l'été, en préparant la rentrée, en se disant qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver de bien, et puis on assiste à des réunions comme celle d'Albin Michel où on nous présente des vedettes, et dans le lot, il y avait quelqu'un qui n'était pas une vedette, c'était Jean-Yves Lacroix. Grosse surprise, tiens, un auteur Alia qui nous offre un petit livre. Moi, je me souviens l'avoir lu dans le train du retour, qui me ramenait de la réunion de l'Abbé Michel, il m'a dit « Waouh !» Donc Jean-Yves Lacroix ne sera pas seulement l'auteur du Cure-Dent, mais d'un très bon, dit premier roman. Alors Jean-Yves Lacroix, il est né en 1968, ce qui est un âge assez raisonnable pour un jeune romancier.
Ouais, c'est vrai.
Il a néanmoins une bibliographie assez conséquente, mais vous vous retrouvez classé quand même dans la vaste catégorie des premiers romans de la rentrée. C'est une bizarrerie de classement, mais qui permet peut-être au moins d'avoir un œil un peu plus attentif sur votre travail. Alors on a fait votre connaissance avec un livre très court qui s'appelait Le Cure-Dent, ce petit livre qui est paru il y a 5 ans, il me semble, en 2008, paru chez Alia. Un texte sur lequel précisément votre éditeur n'avait pas placé le mot roman, à la différence d'Albin Michel, alors, ce qui aurait créé un précédent. Est-ce que vous savez d'ailleurs pourquoi il n'a pas placé le mot roman sur ce livre ?
À ma demande, hein, parce que je pense que c'est un récit. C'est vrai que la qualification de roman, y compris pour Haute Époque, elle est imposée par l'éditeur, c'est une classification marchande, une classification littéraire.
On est d'accord, c'est pour rentrer dans une catégorie. Voilà. Et donc, à la différence de Haute Époque, qui lui est vraiment dans la catégorie roman, Haute Époque sans trait d'union, je le précise, 160 pages vraiment d'intelligence et de quelque chose d'autre qui est sans doute un peu de la mélancolie, j'ai trouvé, qui quand même parcourt ces pages comme ça avait pu parcourir le Cure-Dent, autour des œuvres, de la figure et aussi, chose plus rare, des manuscrits d'un certain Guy Debord, une sorte de figure légendaire désormais, fondateur d'International Situationniste, et qui est mort en 1994, ce qui nous vaudra sans doute l'an prochain un anniversaire, des choses comme ça, des choses comme la France adore en faire. Voilà. Il y aura des célébrations, et peut-être que vous ferez partie du comité de célébration de Guy Debord, je ne vous le souhaite pas. Alors, le livre est placé sous beaucoup de signes, notamment sous le signe de l'ivresse, avec un prologue fantomatique et assez impressionnant, je dois dire. C'est peut-être que quand on lit les premières pages, c'est là qu'on sait qu'on va rester dans ce livre, qui met en scène donc le narrateur, on va l'appeler le narrateur, dans une cellule de dégrisement, donc un endroit assez improbable pour commencer un roman en France. Un 1er décembre, on est en 1994, et il fait la connaissance d'un homme qui ressemble à Coluche, ou selon lui plutôt à Philippe Noiret.
Hein, c'est-à-dire que Debord, il aimait bien dire qu'il ressemblait à Philippe Noiret. Plutôt qu'à Coluche.
Mais effectivement, on trouvait plutôt Coluche. C'était plutôt Coluche. Est-ce qu'on vous a dit d'ailleurs, vous, que vous ressembliez un peu à Guy Debord ou pas ?
Oui, bien sûr.
À part sa veuve.
Oui, plusieurs fois.
Plusieurs fois.
On m'a dit que j'avais des traits de ressemblance. Mais maintenant, c'est moins net parce que j'ai beaucoup minci.
D'accord, oui. Ça alors, bien entendu, le jeu que vous signalez très vite, c'est que, bien sûr, officiellement, Guy Debord est mort le 30 novembre 1994. C'est-à-dire, a priori, un jour avant la rencontre du narrateur avec ce fantôme. Alors vous nous le décrivez, je vais lire juste pour commencer, pour mettre en bouche ce personnage que vous rencontrez en cellule d'écrisement. Ça fait une dizaine de lignes, mais je pense que là on tient déjà quelque chose. Alors, c'est un hurluberlu curieusement attifé. J'ai su plus tard que Guy Debord se targuait d'une ressemblance physique avec l'acteur Philippe Noiret, mais cette nuit-là, c'est à Coluche que j'ai pensé. Dans un rôle d'empereur romain, marqué par la mélancolie, le soir du sac de la ville, avec sa toge de lin blanc en tristesse, et par endroits, copieusement souillé de sang. L'œil vert vitreux qu'on voit aux poulpes sur les mauvais étals, le visage d'un gamin rondouillard, et sur le cou, sur les parties du torse qui s'offraient nues au regard, couvrant l'intégralité des bras et plus bas des jambes, la pilosité d'un marcassin. 1m70, 60 ans d'arrosage. Voilà. Non, c'est assez saisissant comme description d'un être assez exceptionnel, tel que le serait Guy Debord. Alors, c'est le début, en quelque sorte, d'une série de péripéties qui va en grande partie tourner autour de cette figure, de cet homme-là. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, après avoir élu Omar Khayyam dans Le Cure-Dent, comme personnage principal, à choisir justement la figure de Guy Debord, non pas comme héros du livre, c'est pas un livre qui met en scène Guy Debord, mais comme figure, comme sujet de ce livre?
Bien, comme dans Le Cure-Dent, ce qui m'intéressait, au fond, c'est cette sorte de quête identitaire à travers un jeu de miroir. Prendre un personnage dont les idiosyncrasies, les habitudes, les vices sont assez proches des miens, ça permet de dresser le portrait de quelqu'un justement dans ce miroir-là. Alors dans le cure-dent, évidemment, le narrateur qui existait aussi était très peu présent, mais le cure-dent, au même titre que Haute Époque, est une autobiographie masquée. Donc ce qui m'intéressait, c'était vraiment de peindre quelqu'un qui est très près de mon narrateur pour précisément dégager dans ce jeu de va-et-vient, de ressemblance, de résonance, quelque chose comme une identité nouvelle.
D'accord. Alors, il y a des gens qui ont, bien sûr, qui ont rabaissé ça au titre de pochade. J'ai vu le mot plusieurs fois, qui me paraît à la fois insultant et ne pas avoir lu le livre.
Oui, j'ai lu l'article aussi, mais en même temps, c'est très bien.
Mais c'est pas dit méchamment, en plus.
Non, c'est pas dit méchamment, mais voilà. Au fond, effectivement, on parle d'une pochade pour quelque chose fait à la va-vite, etc. Oui. Et là, à mon avis, il y a une petite confusion. Ce qui va vite, c'est le récit. Le livre, j'ai quand même mis 5 ans pour l'écrire.
Voilà, le livre n'a pas l'air d'être construit avec des grosses coutures. Mais c'est pas un panégyrique non plus. Alors, ce qui est étonnant, c'est que panégyrique, bien entendu, c'est le titre d'un livre de Debord. Il s'est, semble-t-il, chargé lui-même de faire son propre panégyrique, hein. Mais c'est quand même un roman. Alors, en quoi cela doit rester quand même de l'ordre de la littérature du roman? Pourquoi l'avoir tiré vers la littérature et non pas plus vers l'essai? Qu'est-ce qui vous a retenu de faire de l'essai? Beaucoup plus que dans, malgré tout, le cure-dent, où curieusement, vous parlez d'un personnage comme Mariam, duquel on ne sait quasiment rien, et où vous racontez beaucoup de choses, que Guy Debord, où on sait plein de choses.
Bien justement. Sûr, moi je pense, ça a été justement l'écriture du premier livre qui m'a apporté cette idée, que les moyens du roman, au moins du récit, pour avancer des idées compliquées, sont souvent bien supérieurs. Par exemple, dans mon livre, il y a toute une scène qui se passe en 1968, où le premier point de vue, qui est la question de départ, c'est... Est-ce qu'en 1968, les situationnistes se seraient adonnés à la violence? Et puis, un des personnages historiques raconte l'histoire d'une des journées de mai 68 où un des situationnistes présents sur la place Saint-Michel arrive à piquer son fusil à quelqu'un, un des flics qui sont autour. Et puis finalement, ce fusil passe de main en main et Debord le casse sur son genou. Donc voilà, dans cette scène, j'arrive à montrer très facilement... sans avoir à expliquer très longuement pourquoi, au fond, et comment les situationnistes refusent la violence, ce qui est quand même paradoxal pour des révolutionnaires. Et dans un deuxième temps, j'ai articulé le récit de la même scène, fait par un illuminé, quelqu'un qui est du côté de la mystique, et qui, lui, dans cette même scène, sur cette même place Saint-Michel, alors que tout le monde est énervé, excité, etc., n'a Dieu finalement que pour l'ange Saint-Michel qui est sur... Eh bien, dans l'articulation de ces deux récits, j'arrive à montrer assez facilement comment, au fond, les deux dépassements possibles de l'art, puisque ça a été la problématique des situationnistes et grosso modo de tout le XXe siècle, comment dépasser l'art, vers quoi? Eh bien, ces deux dépassements, c'était la politique et la mystique. Et en un chapitre, j'ai pu articuler ça d'une façon qui me paraît beaucoup plus lumineuse que la façon dont je viens de vous le faire à présent.
Mais lumineuse, mais tout d'un coup suspecte. C'est-à-dire, on se dit, en lisant cette scène, on a le doute, on dit, où est la part de création romanesque et où est le réel? C'est-à-dire, on a toujours un peu le doute dans votre roman, en train de se dire, et vous jouez là-dessus.
Bien
le
sûr,
jeu, c'est en permanence de
ce
dire...
Qui est vrai, ce qui est très curieux avec ce livre, qui n'avait pas été le cas pour le premier, c'est que la première question qui vient à mes lecteurs, c'est est-ce que c'est vrai? Donc je trouve assez curieux pour quelque chose qui s'appelle un roman,
voilà.
La question qu'on me pose en premier soit la question de la véridicité, en fait, ouais. Du caractère véridique du discours. Et c'est tout à fait délibéré du reste. C'est-à-dire qu'effectivement, je porte des accusations, je rapporte des faits dont on imagine bien que s'ils étaient faux, j'encourrais les pires foudres de la justice. Donc effectivement, cette question titille tout le long et je pense que c'est très bien qu'il en soit ainsi. Pour un roman.
Et alors, est-ce que vous établissez, vous, un lien, alors c'est peut-être artificiel comme question, un lien entre Omar Hayyam et Guy Debord? Est-ce que, parce que, finalement, quand vous parliez déjà d'Omar Hayyam, de votre livre, Guy Debord était déjà, on a l'impression, un peu tapis.
Oui, bien sûr.
Il était caché, il était dans un émotif du tapis, justement. Et quel lien qu'est-ce qui vous y a conduit, finalement? Comme si le cure-dent était la répétition, en quelque sorte.
Voilà, disons que dans une certaine culture gauchiste, un peu vieille maintenant, Debord et Omar Khayyam sont des figures, on va dire, tutélaires. Et dans l'un et l'autre cas, j'ai voulu précisément aller voir ce qu'il y avait derrière ces légendes et comment elles s'articulaient avec la réalité. Et vous parliez tout à l'heure du caractère légendaire de mon récit à propos de Debord. C'est une légende, mais ce n'est pas une légende univoque. C'est-à-dire que je n'essaie pas de rapporter uniquement les faits qui sont à la gloire de ce personnage. Ce qui m'intéressait précisément, c'était au contraire de montrer comment s'articule un élan, à mon avis, manifeste vers la grandeur et des trivialités et des vilainies, tout ce qu'il y a de plus bas. C'était ça l'intérêt pour moi de cette figure de Debord, que je n'ai pas trouvé dans Kayam.
Dans Kayam, justement, voilà. Oui, c'est pas ça du tout. Alors, justement, juste une petite incise, mais est-ce qu'on peut lire votre livre sans connaître Guy Debord?
Ah oui, bien sûr.
Parce que vous en êtes imprégné, au tel point que vous-même. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut le lire en étant un peu innocent?
Bah, c'est fait pour ça. C'est-à-dire que mon personnage est quelqu'un qui, quand il entame le récit de son histoire, ne connaît rien à Guy Debord. Et précisément par la découverte de documents, des rencontres, des témoignages, etc., s'élabore pour lui une figure qui est évidemment celle qui s'élabore pour le lecteur. D'une certaine façon, le narrateur et le lecteur sont dans cette histoire à égalité. Et il me semble que quand on a fini de lire mon livre, on a une idée assez précise de qui était ce Debord.
D'accord. Enfin, on a une idée surtout de qui est celui qui en parle, en fait.
C'est vrai, mais voilà. Il me semble aussi que je donne une
vision. Et vous avez le sentiment, voilà, d'avec un, bah, je ne sais pas si le mot justice est le bon, mais d'avoir rendu justice à une certaine image de Debord que vous voudriez qu'il soit la sienne, quelque sorte. Au-delà du cliché, au-delà du mythe.
Je n'ai pas voulu rendre justice à quoi que ce soit. Ce qui m'intéressait, c'est précisément le caractère moderne de cette légende, parce qu'elle est une légende totalement ambiguë. Il n'y a pas de valeur univoque chez Debord, même. On le qualifie souvent de philosophe. Et c'est vrai que Debord, comme les poètes, parle beaucoup de vérité. Mais quel est le statut de la vérité dans les textes de Debord? Est-ce qu'il y tient comme un mathématicien qui courrait après pour l'amour pur et désintéressé du savoir? Chez Debord, ce n'est pas du tout le cas. La vérité est une arme. C'est un hegelien qui a compris que tout ça n'était que des constructions humaines et que la construction qui triompherait serait évidemment la plus précise et la plus violente.
D'accord. Alors, Debord, vous l'écrivez, il a choisi, alors, pour son dernier livre, en couverture, de mettre l'image du battleur. C'est un personnage qui a suscité quelque chose chez vous, enfin, cette image-là, de mettre le battleur, le bonimenteur, en quelque sorte. Et vous faites fort aussi dans le livre de nous raconter que Debord, il s'est aussi inventé une histoire. Enfin, est-ce que vous avez voulu montrer Debord en train de se créer lui-même en tant que Guy Debord? Qu'est-ce que ça a pu réveiller chez vous, cette idée que Debord se met un peu en scène et assume son côté bonimenteur?
Ben oui, oui, c'est un des éléments les plus troublants chez ce bonhomme qui, alors là, pour le coup, a vraiment quelque chose de génial. C'est un jeune garçon qui est né à Cannes, qui a été imprégné des valeurs locales, une certaine violence de comportement, notamment à l'égard des femmes. Mmh. Et il débarque à Paris, il a 20 ans, et il décide d'être Guy Debord et de n'accomplir quasiment que des actes historiques. Et donc, il sort un film, qui est d'ailleurs directement inspiré d'un film de Izou. Et ce film est projeté. Et à partir de cette projection, commence le récit de Bordien. Et tous les actes qu'il va accomplir sont des actes historiques. Ça a été sa démarche. Ce qui suppose évidemment une certaine compréhension des enjeux de la création artistique de son époque.
Alors, curieusement, donc il a mis en place ça. Pour un siècle et un siècle de l'image, l'image est très absente de Debord. C'est-à-dire, vous dites, on découvre parfois des photos de lui, tout ça, mais il n'y a quasiment rien. Est-ce que ça participe justement de cette élaboration de la légende pour vous, le fait de s'absenter comme ça de son image?
Ben, c'est vrai que pendant des années, comme pour Blanchot, on a prétendu qu'il n'existait quasiment aucune photo de Debord, à telle enseigne qu'en 1985, Debord en a publié une lui-même, où on le voit vraiment un type à l'air pas commode du tout. Hein. Et évidemment, il y a une volonté chez Debord d'assurer l'image de sa postérité. Mais c'est très curieux parce que, par exemple, il a pratiqué ce qu'on découvre maintenant que les archives de Debord sont à la Bibliothèque nationale. On s'aperçoit qu'il a détruit de très importantes correspondances reçues. Comme s'il avait voulu éliminer de cet héritage à la fois toute forme de contestation et toute forme d'apport extérieur d'idées.
Ah oui.
Donc il y a évidemment une réelle volonté de maîtrise, mais paradoxalement, il n'a rien voulu cacher de ce que moi je montre comme étant son ambiguïté fondamentale, et notamment dans les doubles de la correspondance que lui a écrite, qui ont été conservées et dont il a voulu la publication intégrale, on trouve des lettres qui ne sont pas du tout à sa gloire, hein, et qui le desservent et donnent de lui une image...
Une image assez phallocrate, manipulatrice.
Très manipulatrice, quelqu'un qui précisément est capable de faire des discours magnifiques et sublimes de vérité, mais dont l'usage est tout à fait personnel. Dans des histoires de cœur notamment, il a la dialectique... troublante.
Oui. Alors, ce qui est étonnant dans votre livre aussi, et quand même on part de la mort de Guy Debord, enfin c'est un personnage vivant, mais de la mort, c'est qu'aussi vous commencez un peu l'histoire par l'histoire de sa dépouille, par le côté un peu farcesque de cette histoire où il faut échapper aux journalistes, tout ça. Est-ce que c'était commencer par la mort d'un personnage, ça avait de l'importance pour vous, de montrer tout d'un coup ce qui va succéder, ce qu'a priori il a même préparé sa mort, il semblerait presque avoir préparé sa mort.
Voilà, je montre au fond ce suicide comme au moins pour une part une opération de marketing, c'est-à-dire on vérifie le contenu des archives, on y laisse exactement ce qu'on veut y laisser.
On s'y prépare. Alors, pour vous, à un moment, vous résumez de façon assez jolie la légende de Guy Debord. Elle se résumerait presque, il me semble, à sexe, drogue et subversion mélancolique. Alors, expliquez-nous cette espèce de triade un peu extraordinaire qui est sexe, drogue, on a l'habitude. Habituellement, on rajoute rock'n'roll. Mais vous, c'est subversion mélancolique. Qu'est-ce que c'est que cette subversion mélancolique?
C'est-à-dire que, au fond, j'ai appris des choses en écrivant ce bouquin. Et notamment en interrogeant les personnes dont je parle dans le livre. Alors, voici une bande de jeunes gens qui se prétendaient des professionnels de la Révolution. Et de fait, j'ai pu constater que dans leur bibliothèque, vous aviez des centaines de livres consacrés à toutes les révolutions de l'histoire. Tous les livres de référence étaient là. Et effectivement, ces jeunes gens se prétendaient des professionnels de la Révolution. Et le jour où le moment arrive... Eh bien, il n'y a personne.
C'est ça.
La grande fumisterie de l'histoire, quand on lit par exemple le livre que les situationnistes ont écrit dès juin 68 sur leur propre histoire, ça consistait à dire, écoutez, le peuple n'est pas prêt. La réalité, c'est que c'est précisément les équipes d'encadrement qui n'étaient pas prêtes. C'est-à-dire les gens comme les situationnistes qui n'étaient absolument pas prêts à mener une insurrection et à l'encadrer.
Alors, et justement, le mot mélancolie. Alors justement, parce que c'est un mot qu'on associe absolument assez rarement à révolutionnaire, ou alors quand il a beaucoup bu, enfin vous voyez. D'où vient cette mélancolie, selon vous?
Dans cette idée qu'au fond, mai 68 était déjà quelque chose qui était dans la nostalgie révolutionnaire plutôt que dans la révolution.
Ça, en fait, voilà, on ne se projetait pas, on regrettait déjà quelque chose.
On était déjà dans le souvenir de 1870, mais pas vraiment, effectivement, dans des perspectives d'insurrection.
Alors, le livre tient un peu de l'enquête, presque. On a l'impression que c'est une enquête. Votre personnage, le narrateur, a des raisons de se déplacer. Une enquête assez lente et patiente, finalement, s'étale sur pas mal d'années.
10 ans.
Ce qui est assez long pour une enquête. Enfin, si quelqu'un vous avait commandé un livre, une biographie, vous mettez 10 ans à la faire, ça aurait été terrible. Mais on a l'impression que chacun vous amène un éclairage un peu différent sur Guy Debord, sur les situs. Est-ce que vous avez eu le sentiment, en 10 ans, que le point de départ... vous aviez était très différent du point d'arrivée. C'est-à-dire, souvent les gens disent, quand ils vont raconter une biographie, ils ne font qu'illustrer l'idée qu'ils avaient au départ, et la quête biographique n'est jamais que l'illustration en rempli. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là, ou au contraire, c'était véritablement une découverte?
C'est un livre que j'ai quand même en projet depuis pas mal de temps, donc je ne peux pas à toute force dire que ça m'ait appris quelque chose, d'autant que je savais où j'allais.
Vous saviez où vous allez. Mmh. Alors, on rencontre des personnages dans votre livre. On a toujours le doute, parce que moi, je n'ai pas vérifié, ça ne m'amusait pas trop de faire ça, mais si les personnages existaient vraiment, parfois avec des noms un peu étranges, du style Pierre Tanche Rotangle.
Voilà, alors en fait, j'ai conservé les noms historiques pour tous les personnages que j'ai considérés comme historiques, et à tous les autres, j'ai donné des noms de poissons.
D'accord, donc il ne fallait pas s'étonner, d'accord. Et pourquoi des poissons, justement, et pas... Vous pensez dire qu'il y a un côté un peu aqueux dans le situationnisme?
Il y a un côté milieu, Marigot, bien sûr.
Alors, il y a ce Tanche Rotangle, il y a ce Jean-Marc Nicolas et tout ça. Et chacun vient éclairer un peu un aspect de votre regard sur Guy Debord.
Voilà, c'est-à-dire que j'ai placé, ça ne vous a pas échappé, le livre sous le signe de l'enfer de Dante, avec une citation. Et de fait, j'ai trouvé que l'idée de Dante était magnifique. Au fond, raconter sa propre existence à travers les gens qu'on y a rencontrés... c'est une façon d'avancer de cercle en cercle. Alors évidemment, l'éclairage change à chaque fois.
Mais justement, c'est ce qui fait le.
C'est ce qui fait aussi l'intérêt. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un livre qui est entièrement à la première personne, même si c'est pas toujours la même personne qui parle.
La même personne qui parle. Il y en a plusieurs. Voilà. Mais c'était un peu le cas aussi dans Le Cure-Dent, le sentiment que. Voilà. Et puis d'ailleurs, vous dites à un moment, les plus belles idées étaient bien faites pour les chiens. Dans ce livre, qui est que vous avez fréquenté quelqu'un qui pratiquait des idées, des échanges, mais qu'au bout du compte. on avait vite fait de les évacuer, les idées. Les
non, c'est pas ce que je voulais dire, en l'occurrence.
C'était à propos des femmes, c'est, leur façon de...
C'est précisément une illustration de l'ambiguïté fondamentale de Debord. Dans l'exemple que je prends, c'est un tract où on voit une belle créature nue et étendue sur le pont d'un yacht, et on voit un phylactère comme dans les bandes dessinées, et elle dit « je ne connais rien de mieux que de jouir avec un mineur asturien, ça au moins ce sont des mecs ». Et dans cette idée, on voit bien que pour des situationnistes un peu facétieux, il y a là l'argument révolutionnaire ultime. Au fond, notre désir est plus fort et on vaincra à cause de ça. Et dans cette idée, pour le dire crûment, on bande plus fort, il y a précisément, effectivement, cette idée du désir pur, etc., mais il y a aussi l'exploitation qui est faite de cette idée-là dans les milieux gauchistes, de l'asservissement sexuel des camarades féminines, etc., ouais. Au nom précisément du fait que coucher est révolutionnaire. Ouais. Et on est dans ce genre de formulation au cœur de l'ambiguïté de Bordienne. Dans cette articulation, on voit toute l'ambiguïté du personnage. C'est-à-dire, au fond, effectivement, on émet une idée qui montre un élan manifeste pour la grandeur, mais l'usage qui est fait de cette idée est l'usage le plus merdique qui soit.
Ouais, mais est-ce que vous pensez que cette ambiguïté est totalement revendiquée ou est-ce qu'elle échappe à
Elle n'est jamais revendiquée, elle est toujours cachée. C'est
mais
ça,
cachée, là. Mais est-ce que cachée parce qu'elle échappe ou, enfin, je veux dire, elle se manifeste sans qu'il le veuille? Ou est-ce qu'au bout du compte, c'est une partie du plaisir de savoir qu'on de la transgression, de la transgression révolutionnaire?
Ah oui, je pense que c'est une partie du plaisir.
Une partie du plaisir est là, la transgression. Alors, est-ce que vous avez eu l'impression, vous, en cherchant, d'avoir eu les réponses à toutes les questions que vous posiez sur Guy Debord? Et sur vous-même aussi, par la même. Mais est-ce que... parce qu'au bout du compte, c'est ça qui nous intéresse, mais...
Bien, je ne sais pas vraiment quoi répondre, parce que... J'ai aussi mis en avant des partis pris narratifs où j'ai évité tout discours introspectif. Alors oui. De ce point de vue-là, on devine les motivations de mon personnage, non pas au discours à cette petite voix off qu'on trouve à peu près dans toute la littérature, mais uniquement dans la façon dont cette personnalité se déploie dans ce qu'elle fait. Et donc, j'ai certainement trouvé des choses, j'ai compris des choses en écrivant ce bouquin, mais elles ne sont pas forcément dans le livre. En tout cas, c'est aussi au lecteur de les deviner à partir de ce que je montre. C'est-à-dire, vous avez une écriture qui n'est pas motivée. Enfin, il n'y a pas cette voix off du roman psychologique bourgeois traditionnel qui me hérisse et me rend dingue.
Voilà, et que vous refusez de tout dire. C'est le principe, c'est au contraire. L'ellipse, c'est presque le.
Voilà, je refuse de tout dire. Et par exemple, si dans les écrivains actuels, la littérature journalistique, la Morgane Sportes ou ouais. même Emmanuel Carrère, c'est intéressant, mais. Ce discours sociobiologique qu'on trouve en permanence pour motiver les actions des héros, etc., pour moi, il est exactement il a exactement le même statut que cette voix du narrateur omniscient qu'on trouve dans des romans de Paul Bourget, par exemple.
Oui, ce que Sartre reprochait à Mauriac.
Voilà, et ce que je peux plus, effectivement, ce que je n'aime pas dans les livres qui m'arrivent de lire.
D'accord. Oui, donc vous avez beaucoup de mal avec la littérature contemporaine.
J'en dis très peu.
Alors, il y a une chose qui a l'air évidente, mais qui est assez peu abordée, somme toute, dans le livre. On a le sentiment que le Guy Debord qui vous intéresse sans doute le plus, c'est le Guy Debord écrivain. C'est que ce type était avant tout quelqu'un qui savait écrire, qui avait une langue assez extraordinaire. Vous en citez même un passage, j'ai presque envie de lire. Est-ce que c'est aussi lui que vous recherchez, mais sans le trouver? C'est-à-dire ce Guy Debord qui aurait vraiment été un écrivain et qui passe... Enfin, de nos jours, est-ce que vous avez le sentiment de rencontrer des gens qui vous disent « Guy Debord, quel écrivain ?» Est-ce qu'on vous en parle, celui-là?
On en rencontre, mais ils se cachent parce qu'ils sont mal vus des autres qui soutiennent le Debord politique. Et évidemment, le Debord écrivain, on l'a. Hein. On aurait aimé plus. On aurait aimé qu'il y ait des tas d'inédits dans ce sens-là et qu'il y ait au moins des tentatives.
Ah, vous avez fantasmé là-dessus? Vous dire de retrouver, par exemple?
J'ai fantasmé, mais il y a...
Des vraies mémoires, par exemple?
Non, mais il y a, paraît-il, qui n'ont pas été présentés à l'exposition de la BNF, des cahiers complets de récits de rêves. Voilà, qu'on nous fait miroiter comme une sorte de Graal, mais dont on n'a pour l'instant pas vu la couleur. En même temps, quand on voit par exemple la façon dont Debord a pu lire ses contemporains, je pense à Beckett, à d'autres mondes, parce qu'il ne parle pas de grand monde, hein, mais, ou Michaud, etc., il est quand même... on voit, je pense qu'il aurait eu du mal à imaginer la forme dans laquelle il aurait pu s'exprimer.
Ah oui, vous pensez ça, ouais. Il lui manquait le vecteur pour exprimer sa qualité d'écrivain ?
Ben, certainement, enfin, sa qualité d'écrivain, il l'a exprimé dans chacun de ses livres. Mmh. Chacun de ses livres est construit selon un concept différent à chaque fois. C'est vraiment, là aussi, on a quelqu'un qui se comporte véritablement à chaque fois comme un artiste. C'est-à-dire, eh bien, il invente des façons de faire des livres. Quand il compile, par exemple, des articles qui ont été faits sur ses films et qu'il les livre sans commentaire en les signant de son nom, bon, ben, il invente quelque chose. Mmh. Et il a toujours procédé comme ça, et visiblement, et en tout cas, il ne l'a pas cherché ou pas réussi dans le domaine, dans les formes classiques d'expression littéraire, que ce soit le récit ou le roman, à appliquer ces dispositions.
D'accord. Alors, au bout du compte, est-ce que vous avez l'impression qu'on pourrait dire de la vie de Guy Debord, parce que ce que vous nous en présentez est assez impressionnant quand même, c'est parfois un peu morbide, mais ce serait une sorte de désastre magnifique, quelque chose comme ça. Parce que, somme toute, la grandeur du personnage, elle n'apparaît pas dans votre livre. Vous n'êtes pas subjugué par le personnage, comme si vous reteniez de quelque chose. Et on le voit beaucoup dans des scènes un peu triviales, etc., où on voit son entourage. Est-ce que on a plutôt le sentiment que vous nous dépeignez quelque chose qui serait un désastre, mais un désastre sublime. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Ou alors, c'est une lecture que je fais qui échappe à celle que vous vouliez qu'on ait. Parce qu'on voit ces turpitudes, ces tentations, enfin, vous voyez, on voit quand même des choses comme ça. Comme si c'est celle-là qui vous intéressait parce qu'elle vous concernait, vous.
Oui, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement de va-et-vient entre, justement, l'aspiration vers les choses basses et l'élan vers la grandeur.
Ouais. Mais la grandeur est peu présente, je trouve, dans le livre.
Ben, au moment du suicide, à mon avis, elle se révèle.
Elle se révèle, là.
Elle se révèle véritablement. Je sais pas, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Par exemple, quand je termine un de mes chapitres en citant ce que Debord considérait comme la plus belle de ses œuvres de jeunesse, à savoir un tag qu'il avait fait derrière... l'Institut, à savoir un gros graffiti marqué « Ne travaillez jamais ». Je trouve qu'on voit à travers ce genre de petits détails de quel bois et de quelle étoffe est fait cet homme.
Alors, il y a une chose qui est étonnante dans votre livre, qui est le côté... Alors juste, moi, j'ai lu le livre plusieurs fois et j'ai le sentiment que c'est un livre avec lequel on peut être injuste si on ne le lit qu'une fois. Comme vous disiez, je pense que le cure-dent, c'est pareil. Il y a des choses qui apparaissent, enfin des motifs, qui fait que vous devez beaucoup condenser et qu'on se dit, tiens, j'avais pas vu ça la première fois, ou j'avais pas compris, ou qu'un personnage peut avoir un double. C'est-à-dire qu'un personnage peut avoir le même nom, mais ce n'est pas le même. Enfin bon, il y a des choses comme ça. Il y a malgré tout dans votre livre des personnages qui sont presque des personnages de comédie, assez étranges, qui sont les exécuteurs testamentaires, en quelque sorte ce trio. Où tout d'un coup, qui donne l'impression, alors il y a une sorte de pied nickelé assez étonnant, enfin, avec qui vous manquez, comment dire, là pour le coup vous n'êtes pas dans la vénération du tout, mais comment vous avez approché ces personnages-là, qui étaient donc ceux qui exécutaient le testament et qui donnent l'impression d'être vraiment des exécuteurs pour le coup. Voilà. Est-ce que c'est pas la partie un peu comédie de votre livre, mais en même temps une comédie un peu... qui déraille, enfin, on est dans quelque chose d'un peu sordide. Comment vous avez abordé ces trois personnages, et notamment la veuve ?
J'ai rien inventé.
Là, pour le coup, le romancier n'est pas rentré en action.
Non, j'ai raconté les choses à peu près de la façon dont elles se sont passées.
C'est-à-dire que la scène, quand elle vous claque la porte au nez...
Non, ça c'est inventé, mais c'était une
façon... Parce que là, on dirait c'est trop beau, quoi. Parce que vous lui ressemblez, etc. Bon, voilà. Voilà. Mais parlez-nous un peu de cette tribu là qui donne le sentiment qu'ils sont un tribunal révolutionnaire et que vous êtes là un peu soumis à un examen, quelque chose comme ça.
Non, mais ça s'est effectivement passé. On n'approchait pas la tribu de Debord sans montrer patte blanche, sans être adoubé. Donc il fallait surtout pas dire de conneries, pas dire d'hérésie politique, par exemple. Mais bon.
Ce avec quoi vous étiez à l'aise ou pas ?
Parce que est-ce que vous aviez... Oui, ça allait, mais il faut comprendre ce que je raconte dans le livre. Donc là, on est au milieu des années 90, l'aura absolument incroyable que ce groupe radical pouvait avoir auprès de jeunes intellectuels dont je faisais partie. On leur prêtait effectivement un refus radical des valeurs communes, même de la façon de vivre.
Vous-même étiez dupe un peu de ça alors, malgré tout.
Dupe, je l'ai subi en réalité. Bourseiller, qui a écrit la grande biographie de Debord, peut témoigner comme moi. qu'il a été reçu par trois personnes assises autour d'une table et que ces gens-là ne disaient exactement que ce qu'ils avaient envie de dire. Et moi, quand Alice Debord m'a parlé justement des interrogatoires qu'ils avaient fait subir à Boursier alors que c'était lui qui posait les questions, elle me dit « c'est simple, nous ne lui avons rien dit ». Donc voilà, c'était effectivement... Et ça continue du reste, hein, ça continue. Les mêmes tentatives d'intimidation, de lettres d'insultes, j'en ai reçu.
Oui, on en parlait un petit peu voilà. Tout à l'heure, mais la réception du livre, ça donne quoi justement? Est-ce que, vous disiez, il y a 20 ans, Guy Debord, il y avait quelque chose qui se passe d'intense. Maintenant, c'est la Bibliothèque nationale qui fait des expositions.
Voilà,
est-ce
question
que quelque chose s'est un petit peu atténué? Est-ce que l'histoire a mis son grain de sel et a replacé Guy Debord à sa place, c'est-à-dire peut-être pas là où on pouvait l'espérer il y a 20 ans? Comment s'est reçu votre livre, justement?
Bien,
le début d'un dévissage de statut, quelque chose comme ça, ou pas?
Non, d'ailleurs, je ne crois pas que ce soit
l'objectif.
Je pense qu'au contraire, j'ai dans ce livre dressé un vrai portrait de Debord, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus nuancé et riche qu'un portrait... univoquement laudateur.
Mais alors, est-ce que vous savez comment c'est perçu précisément par les gens pour qui Debord est précisément de la grandeur?
Les copains m'ont dit, et ils ont raison, hein, ça ne va pas faire plaisir à la famille, et de fait, ce livre est une matière active qui pour l'instant ne me vaut à peu près que des désagréments. Non, mais c'est vrai que je me suis fâché avec mon précédent éditeur à cause de ça. Raoul Van Eghem me fait la gueule, visiblement.
Oui, pourtant, vous le ménagez plutôt, à part de dire qu'il ne se lave pas beaucoup, mais sinon...
Non. Enfin, en tout cas, tous les anciens situs avec lesquels j'étais en contact me font la gueule. Ouais.
Et alors, comment vous l'expliquez? Par rapport à ce que vous dites ou par rapport au fait que vous ayez choisi d'utiliser le roman, qui est a priori qui est un genre très bourgeois, quand même?
Écoutez, j'ai placé ce livre sous le signe de l'enfer, donc je parle d'argent, parce que en enfer, on ne parle que d'argent. Hein. Et je pense que c'est ça le vrai fond du problème.
Ouais, le problème, il est là.
C'est-à-dire que vous avez tous ces gauchistes qui considèrent que leur misère matérielle est la garantie et la preuve de la fidélité à leurs engagements, ce que c'est dans une certaine mesure. Mais se fâcher, par exemple, parce que je parle précisément de ce genre de choses, c'est être quand même attaché à une sorte d'une forme de respectabilité très petite bourgeoise, au fond.
Oui, tout à fait. C'est ça qu'on voit. Alors, dans Le Cure-Dent, ça vous venait pas que je parle aussi un peu du Cure-Dent, qui est un livre que j'ai relu à l'occasion et que je trouve un livre assez incroyable. Le point de départ du livre, si vous écrivez ce livre, c'est parce que vous allez dans une bibliothèque, et dans cette bibliothèque, il manque le livre dont vous auriez besoin. Et en quelque sorte, vous allez écrire le livre pour le remplacer. Alors, on sait que vous êtes dans le livre, vous êtes quelqu'un qui pratiquait le livre. Comme si, en fait, vous ne voulez rien ajouter. C'est-à-dire que vous êtes au milieu des livres, peut-être que vous en débordez de livres, et qu'il faut qu'il manque un livre pour que vous vous décidiez à en écrire un. Et vous disiez, je ne sais pas où, que c'était une sorte de ruse, c'était la ruse que vous avez trouvée. Est-ce que vous avez eu besoin d'une ruse pour vous lancer dans Haute Époque? Qu'est-ce qui vous a permis, vous autoriser de vous lancer à ça? Qu'est-ce qui vous a décidé?
La première ruse, effectivement, ça a été de me dire qu'il fallait que j'écrive ce livre parce que j'avais envie de le lire. J'avais envie d'un livre qui parle de Debord et qu'il le fasse de cette façon-là, en allant vraiment au fond des choses. Moi, je suis libraire de livres anciens, spécialisé dans les avant-gardes. Depuis 18 ans, j'ai affaire à des protagonistes, effectivement, des mouvements. Et ce dont je témoigne, c'est de la marchandisation spontanée des avant-gardes à l'ère démocratique. Au fond, jusqu'au début du 19e, les écrivains étaient des nobles qui n'avaient pas soucié de la façon dont il fallait vivre. Et précisément, en parlant de ce genre de choses dans mon bouquin, je suis au cœur, me semble-t-il, de ce combat que des artistes et des écrivains mènent tous les jours pour bouffer.
D'accord. Ah oui.
Mais oui, je pense qu'on peut dire les choses comme ça.
Alors, l'Omariam du Cure-Dent donnait assez souvent l'impression que c'était vous, en grande partie. Enfin, je ne sais pas, c'est curieux à dire, mais alors que ça ne s'annonçait pas comme autre chose qu'a priori une biographie. Enfin, on ne sait pas quoi dire sur le Cure-Dent, justement. Même on se dit pendant tout le livre, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Cure-Dent? Pourquoi ça s'appelle le Cure-Dent? Enfin, le titre est énigmatique. Et alors, le jeu est beaucoup plus timide dans le Cure-Dent, au début, à la fin. À la fin du Cure-Dent, il y avait notamment une scène qui est presque une scène romanesque, hein, vous brûlez tout ce que vous avez fait. Alors, je ne sais pas si c'est une scène réelle ou pas, ou si c'est une sublimation, un truc. Mais là, vous avez osé le jeu narratif. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi le jeu et pas de prendre une figure narrative qui serait il, sans le commenter, hein, en étant descriptif à la Emmanuel Bove, ou voilà. Quelle place vous attribuez à ce jeu de narration? Est-ce qu'il vous protège ou est-ce qu'il vous libère?
Non, il ne me protège pas du tout, au contraire. Proust disait qu'on peut tout dire, sauf si on dit je, et c'est précisément pour ça que je pense que j'ai décidé de dire je et de plus lâcher en fait ce dispositif. Écrire un récit à troisième personne aujourd'hui, se défausser devant cette ligne de risque qu'il s'agit d'assumer, parce que dans mon récit, dans mon roman, le personnage, le narrateur, se montre pas spécialement dans sa propre gloire. Et je veux dire, écrire un livre, c'est être capable d'assumer, de dire des choses sur soi, sur les autres, qui sont déplaisantes à dire. Et je pense que dire « je », c'est une façon de précisément ne pas se défiler des enjeux propres de la littérature.
D'accord. Et pourtant, l'autofiction, vous êtes totalement étrangère. Enfin, on est dans une...
Oui, oui, mais parce que oui, ça m'intéresse.
Ça vous intéresse pas du tout, et voilà. Il faudrait pas le lire comme ça, en tout cas.
Non, non. En plus, j'essaye quand même toujours de. Il y a dans mon livre des tentatives de sublimation.
Oui.
Ce personnage qui part enterrer tous les livres de Debord dans un site troglodyte pour qu'on les retrouve
très tard.
Voilà, ouais. C'est une façon de dire les choses.
Et puis vous commencez le livre par l'apparition d'un fantôme, enfin, dont vous ne donnez jamais la solution, mais qui est d'entrée. Est-ce que c'est un jalon qui dit, voilà, on est a priori, on est dans la littérature, on est presque dans le fantastique. Ça aussi, c'est un marqueur de départ.
C'est un marqueur de départ. Et ce qui m'intéressait aussi dans ce livre, c'est... J'ai toujours pensé qu'il y avait un contrat implicite entre un auteur et son lecteur. Moi, je ne supporte pas, par exemple, quand les présupposés d'un livre ou d'un film sont beaucoup trop éloignés de ce à quoi je peux croire, ou même d'une construction future qui ne m'intéresse pas. Mais n'empêche, il me semble que les bons livres sont toujours ceux qui mettent en crise le rapport entre un auteur et son lecteur. Qu'est-ce qu'on est capable de faire gober à son lecteur ? Où est-ce qu'on est capable de l'emmener ? Et avec quelle autorité ? Et ça m'a intéressé. Donc, par exemple, c'est aussi pourquoi une des premières idées qui m'est venue, c'était de faire raconter le suicide de Debord par son chat.
Oui, voilà. Non, puis il y a deux animaux, il y a un chat et il y a un renard empaillé.
Renard, oui,
mais dont on peut presque même douter qu'il soit empaillé. Également, vous en parlez comme un animal qui est là et qui attend. Voilà. Donc, alors après, est-ce que c'est référencé ou est-ce que c'est pas référencé ? On a l'impression que votre livre a l'impression d'être gonflé de littérature. Comme si vous étiez imbibé de littérature, si je peux me permettre, mais qu'il fallait chasser aussi les références et qu'elles, malgré tout, elles revenaient par des portes détournées.
Voilà, mais les références reviennent beaucoup plus de façon brutale par des détournements que je pratique sur des textes, des grands classiques. Et des...
Parce que moi, je ne les ai pas repérés, mais on a l'impression que parfois que c'est des citations ou c'est des choses que vous prenez des procédés presque de Debord qui est peut-être a priori s'accaparer du texte, mélanger, jouer avec le fait.
Le détournement, le cut-up, tout ça. Oui, bien sûr, j'essaye. Quand j'écrivais mon premier livre, j'avais un ami qui me disait sans cesse, n'oublie pas que tu es un artiste et qu'il faut que tu te comportes comme un artiste. Et ça m'est resté en fait, parce qu'effectivement, si on n'interroge pas les moyens qu'on a à sa disposition quand on écrit un livre, alors à quoi ça sert ?
D'accord. Mais en même temps, tout en disant au lecteur, je ne vous donne pas tout, je suis loin de vous donner toutes les clés. C'est-à-dire que.
Ouais, enfin,
oui, enfin, ce qui est normal pour un auteur, un acteur
sont,
du XXIe siècle.
Il faut aller chercher. Il faut aller...
Ouais. Alors, c'est un livre aussi, et c'est pour ça que c'est passionnant. Je regrette qu'il y ait. Enfin, j'aimerais que plus de libraires le lisent, puisque un des sujets principaux du livre, c'est quand même le papier. C'est un livre sur les livres. C'est ça qui est assez fascinant. Sur un aspect des livres qu'on connaît mal, d'ailleurs, hein, parce que les bouquinistes et les libraires s'ignorent de façon assez incroyable. Ils n'ont pas le même rythme. Enfin bon, je n'ose pas imaginer. Nous, on a un marché aux bouquinistes tous les mercredis là. Quand ils nous voient arriver, les libraires de chez moi là, on a droit à des railleries. Quoi. Donc c'est un livre autour d'un livre, autour d'un auteur dont vous cherchez les livres. Quel est votre rapport avec le livre ? Est-ce que vous êtes un névrosé du livre ?
Ah oui,
un obsédé du livre ?
Bien sûr, un névrosé. J'essaie de voir ce que je faisais avec les livres, mais il se trouve que j'en écris, j'en édite aussi. Je fais un peu d'édition, j'en ai illustré, j'en ai traduit, j'en fais relier, j'en fais laver, j'en fais recoudre. Enfin, je passe ma vie avec les livres. Ouais. La totalité de ma névrose s'est concentrée sur cet objet.
D'accord. Mais alors, est-ce que le livre, devenir écrivain, vous en a guéri ou pas du tout ? Au contraire, ça ne fait qu'accentuer une névrose dans laquelle vous vous vautrez avec un grand plaisir.
En fait, ça m'a guéri aussi, parce que acheter des livres dans les quantités où je suis obligé de le faire à titre professionnel, c'est une façon quand même d'assouvir ces pulsions d'achat très fortes.
Oui.
Et c'est une façon aussi de renouveler l'intérêt qu'on porte, parce que je travaille sur beaucoup d'exemplaires uniques, de manuscrits et de choses comme ça, donc je vais de découverte en découverte.
Mais vous avez toujours cette ivresse-là du livre un peu particulier ?
Oui, ça ne me quitte pas. C'est vrai que c'est un... Éprouver une émotion quand on a un manuscrit entre les mains ou une belle édition, j'ai pu observer au fil du temps, hélas, que ce n'était pas une denrée très commune, mais moi je l'ai. Ouais, je l'ai.
Oui, c'est-à-dire, rien ne s'émousse de ce côté-là.
Non, non, non.
Et là, en même temps, vous êtes dans cette situation d'être dans l'unique, le rare, et en même temps, vous êtes désormais édité de façon presque industrielle par un éditeur qui met des bandeaux, tout ça. Est-ce que vous vivez ça comment ? Comme plutôt quelque chose, un jeu ou une sorte de grand écart entre le fait que...
Non,
vous visitez
non.
des aspects très différents de la littérature.
Oui, c'est très différent. La seule chose qui nous réunit entre les libraires de neuf, les libraires d'anciens et les éditeurs, c'est qu'en ce moment, ce n'est pas drôle.
On est bien d'accord. Voilà. Et vous dites, c'est un beau métier, sans trop de contraintes, il est vrai, mais les femmes s'y montrent si rares qu'on finit par en croire l'espèce à jamais tarie et par s'amouracher des mortes. Et je trouve ça très beau.
Le public des bibliophiles est malheureusement très très majoritairement, même plus que ça, masculin.
Et alors vous avez une explication au fait que vous vous retrouvez dans un monde d'hommes finalement, et que alors que somme toute l'amour est quand même aussi un des thèmes importants du livre, comme ça l'était dans le livre dans le cure-dent. On a l'impression que on tourne autour, mais on y arrive. Et que somme toute, il y a une histoire d'amour aussi dans ce livre.
Ah, mais il y en a même plusieurs dans
pas avec Alice de Bord, mais...
Il y a surtout l'exergue de Dante qui montre dans quelle attente, au fond, mon personnage peut se situer.
Mais qu'on attend beaucoup dans le livre en se disant, voilà, ouais. Parce que vous placez cette exergue-là et elle n'est pas immédiatement compréhensible, si ce n'est qu'on sait que ça va être infernal. Mais voilà. Alors il y a un rapport très net, vous êtes un romancier de l'amour quand même. Et vous parlez de Guy Debord. Est-ce que ça ne vous paraît pas... contradictoire, ou est-ce que au contraire, vous pensez que Debord a eu un rapport à l'amour assez saisissant ?
Non, pas du tout. Non, je pense pas que Debord ait un rapport saisissant à l'amour. Au contraire, tout ce qu'on peut lire de lui, c'est des plans de collégiens. Il demande à un copain d'aller dire à une telle qu'il aimerait bien la sauter. Enfin bon, c'est pas...
Alors vous avez encore une dimension un peu romantique, finalement.
Oui.
Vous êtes un romantique.
Voilà, d'accord. Une sorte de...
Alors, c'est aussi un livre... bon, je saute parce qu'il y a des tas de choses. Il y a un personnage, moi, qui m'a assez étonné, qui est la figure de Felipe, qui est pareil, j'imagine que ça ne va pas être un vrai nom, etc.
Non, c'est un...
C'est, bon, est-ce qu'il existe seulement
Si, il existe.
Mais qui donne le sentiment que vous vous êtes trouvé un contradicteur, une sorte de contrepoint l'admiration que vous pourriez avoir pour Guy Debord. C'est-à-dire qu'il est là pour vous dire... vous dites clairement qu'il ne lit pas Guy Debord et en même temps, il donne l'impression d'avoir tout compris. Et il est là en figure de contrepoint. Est-ce que c'est un peu le rôle qu'il joue ?
C'est exactement. J'ai voulu lui faire porter le rôle du négatif, mais pas seulement. Je voulais aussi qu'il incarne cette sorte de figure qu'on voit très souvent, qui est celle du refus a priori de Debord. La plupart des gens, en tout cas ceux qui ont 15-20 ans de plus que moi... qui ont un passé politique, d'anciens Mao, ce genre de choses, peuvent pas supporter Debord, mais son ton, c'est presque physique, voyez. Et c'est des gens qui réfutent pas la pensée de Debord, ils ne la connaissent pas, ou ils en connaissent qui se racontent à droite à gauche, c'est-à-dire quand même très peu de choses, mais qui réfutent a priori le personnage.
Oui, mais alors il dit, on ne peut pas faire confiance à un homme qui prend un intérêt si personnel à l'énoncé de la vérité.
Il voit bien les choses.
Quand même, parce que la vérité quand même aussi est vraiment au cœur du livre aussi. Quelle est la vérité d'un homme ? Est-ce qu'on peut toucher à la vérité d'un homme ? Et vous avez choisi précisément le roman parce que c'est le meilleur moyen d'atteindre la vérité d'un homme, c'est-à-dire de ne pas trouver la vérité, comme tout.
Ouais.
Et c'est Felipe qui le dit, ça. Alors, c'est aussi un livre, alors là c'est étonnant, parce que quand on relit le cure-dent, on se rend compte qu'on est en plein dedans, c'est un livre sur l'ivresse quand même.
C'est vrai, oui.
C'est un livre, vous avez, semble-t-il, choisi, parmi les écrivains du XXe siècle, l'un des plus gros pochetrons, sans doute, des lettres. Hein. Alors, je pense que ce n'est pas un hasard. Alors, dans le cure-dent, il y avait des passages assez étonnants sur cette histoire de processus des démolitions. Ce n'est pas un truc que vous avez inventé. Alors, je peux vous cite. Hein, tout de suite, un processus de démolition.
Ça, c'est Fitzgerald. Hein.
Oui, d'accord. Mais vous n'avez pas mis de guillemets.
Non,
hein.
Non, c'est vrai. D'accord. Jamais.
Faites un peu comme à la main. Hein. il y a une folie, une grandeur à vouloir éprouver les vérités abstraites au point de transformer ce processus en une entreprise rationnelle, cohérente et concertée. Mais enfin, la pensée qui forme aisément cette idée que le ciel et l'enfer sont en nous ne serait à peu près rien si elle ne compromettait pas le corps. Phrase magnifique, elle n'est pas intégralement Fitzgerald, rassurez-moi.
Ah non,
elle est d'accord, c'est juste le début, voilà. Hein, la phrase est connue. Expliquez-nous ça, en quoi ça, ce que vous racontez, se retrouve dans le roman à haute époque ?
Dans les deux livres, il y a une pratique intense de l'alcool.
Mais ce côté ciel et enfer, c'est-à-dire qu'on est... vous ne condamnez jamais l'un, mais sans taire l'horreur que ça peut être. Vous parlez de la soif, quoi.
Oui, enfin, la gamme des émotions du ciel à l'enfer, effectivement, on les porte en nous. Précisément, encore plus les alcooliques, ceux qui sont effectivement soumis à la tyrannie de leur substance, qui à la fois leur apporte du soulagement, et quand elle n'est plus là, c'est effectivement l'enfer.
Ouais, mais alors, vous parlez de soif, ce qui est assez rare déjà comme mot, voilà, et aussi d'ivresse. Moi, j'ai le sentiment, en lisant ce livre, que déjà, vous abordez un sujet qui n'intéresse pas grand monde, qui est le rapport qu'on peut avoir avec l'ivresse, qui est somme toute le quotidien de beaucoup d'écrivains et d'artistes. Est-ce que vous avez ce sentiment-là?
De libraires aussi.
De libraires.
Enfin, d'anciens, en tout cas.
Bon, ceux qui mangent beaucoup, mais qui boivent beaucoup. Omar Khayyam, vous le dites beaucoup, c'est un type qui a décidé à un moment d'arrêter de travailler, enfin d'être sérieux, pour se consacrer aux joies, au bonheur de l'ivresse. Est-ce que votre narrateur n'est pas aussi un peu comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette tentation-là de céder au bonheur de l'ivresse et de jamais vraiment l'atteindre?
C'est pas une question du bonheur de l'ivresse, c'est plus une activité journalière. De bord, par exemple, il parle de son alcoolisme comme d'un pacte reconduit tous les jours. Ce qui...
Oui, mais comme il en fait ça, comme on dirait presque une performance artistique. Enfin, pas artistique, mais c'est pas un alcoolisme coupable.
Ah non, c'est un alcoolisme revendiqué.
Comme s'il allait aller vers quelque chose, et comme si, et vous le dites à un moment, l'alcoolisme qui s'imprime sur des semaines, des mois, des années... provoque quelque chose, crée un état qu'on ne peut pas comprendre.
Oui, dans le cœur d'ange, je parle même de boire comme d'une activité à part entière de l'esprit humain.
Oui. Ça, c'est plutôt un tabou, d'ailleurs, de ce genre de choses. Enfin, je trouve que le livre en parle de façon assez magnifique.
C'est un tabou, mais en même temps, le recours à toute forme de psychotrope, oui, à la fois dans l'espace et dans le temps...
Mais qui donne l'impression d'être plus noble. Enfin, je veux dire, on vante Michaud, qui est espèce de tout, mais le vin, c'est le mauvais vin. Quoi. Le vin est souvent le mauvais vin. Voilà. Et alors, vous dites une chose qui est très amusante. Les mamelles du gauchisme, il y en a un qui c'est un de vos personnages qui déclare ça. Hein. C'est le pia-pia et le jaja.
Ouais, le pia-pia, c'est la discussion. Donc,
voilà. Et le jaja, alors qu'il est un terme qu'a priori, on n'imagine pas trop dans la bouche d'un gauchiste. Enfin bon, c'est le mauvais vin aussi, le jaja. Voilà. Alors comment vous le voyez, l'alcoolisme de Guy Debord? Il y a des scènes dans votre livre qui sont quand même assez impressionnantes. Courtes, mais comment vous l'envisagez? Comment vous avez pu le...
Mais c'est quelque chose de compliqué, hein, situer l'alcoolisme de quelqu'un...
Non, mais il fait écho à celui du narrateur, quand même.
Oui, bien sûr, enfin, il le provoque même. Hein. C'est-à-dire que c'est par identification que mon narrateur devient un alcoolique emphatique. C'est vraiment dans l'imprégnation de bord qu'il y a une imprégnation
alcoolique. Ah oui, moi je n'avais pas vu à ce point-là, mais...
Disons qu'avant, ce qu'on comprend, il boit déjà, mais à partir du moment où... où il découvre de bord, il s'y met vraiment. Et précisément pour voir ce qui s'y passe.
D'accord. C'est comme une sorte d'expérience.
Voilà. Et vous voyez quand même que la totalité du livre est aussi, on peut le lire comme une longue dérive. On tombe sur on commence, le type est visiblement ivre-mort dans une cellule de dégrisement, et on n'est pas très certain qu'il quitte cette humeur pendant tout le livre.
Oui, enfin, il fait de la voiture, enfin, il fait des choses qui te réclament malgré tout un petit peu de sérénité, mais bon... Et puis vous dites, il y a une chose qui est très singulière, c'est que, somme toute, j'avais trouvé cette expression assez incroyable, il avait le visage de Coluche, enfin, il y a aussi toujours ce lien avec Coluche, et vous dites un truc qui est aussi un tabou, vous dites qu'il a le visage statistique de l'alcoolisme européen.
C'est vrai, je connais plein de gens qui, certains alcooliques, qui à un moment de leur développement se mettent à ressembler à Coluche. Donc effectivement, j'ai eu cette idée que Coluche, est, au moins quand il est vraiment gros, à la fin... et une sorte de visage statistique de l'alcoolisme européen.
Alors le livre peut décrocher aussi de cette enquête, cette quête autour de Debord, avec le récit notamment des désintoxications. Qu'est-ce que ça a amené à l'action, ce récit de ces scènes où tout d'un coup le narrateur doit sortir du monde?
Ben, c'est l'enfer. Hein.
C'est ça, il fallait amener les cercles de l'enfer, tout en ne renonçant pas à la femme aimée qui, elle, reste à la porte de l'enfer, en quelque sorte.
Enfin, elle est partie. Hein,
elle est partie. Enfin, elle accompagne, quand même, on a le sentiment
qu'elle
accompagne.
Ah oui, c'est vrai, au début, oui, tout à fait.
Elle est là pour faire rentrer dans les...
Disons que le personnage décide de se désintoxiquer simplement parce que physiquement, il est incapable de faire face à ce que réclame une amante. Hein.
Oui. Oui, alors justement, dans les deux livres, il y a un mot que vous n'utilisez pas, il me semble, hein, qui est le fiasco. Le mot fiasco, ouais. j'ai rayé alors comme si. Mais le personnage quand même principal fait un fiasco véritablement. Omar Khayyam donne le sentiment qu'il légitime un peu, donnerait presque une beauté au fiasco, c'est-à-dire que le fiasco devrait presque être la première étape de l'histoire d'amour.
Bah, c'est toujours une vraie déclaration d'amour, un fiasco. Ouais. Oui.
Là, vous restez dans la tendance classique. Et...
enfin, il me semble, mais...
D'accord. Est-ce que vous accepterez de lire un passage de votre livre ou pas, ou vous lisez
non,
très mal?
Non, je lis. Enfin,
je demande à chaque fois.
Je suis pas préparé.
Parfois, non. Ça peut être assez bouleversant d'entendre quelqu'un parler de ses propres livres. Voilà.
Je suis désolé, mais
non, pour oser la performance aussi. Et alors, on sentait donc dans Le Cure-Dent que Guy Debord était déjà un peu là. Guy Debord est arrivé dans Haute Époque. On sent pas trop d'autres personnages présents. Enfin, Avicenne, c'est une figure lointaine. Ce qu'on craint le plus en terminant Haute Époque, quand on l'a beaucoup aimé, c'est de se dire, est-ce que ça va être une sorte d'apax? Est-ce qu'il y aura quelque chose d'autre? Voilà. Vous êtes très jeune, mais...
Je comprends la remarque, c'est-à-dire qu'au fond, pour l'instant, j'ai écrit que des livres qui manquaient, alors donc vous craignez que...
Est-ce que vous pouvez rajouter des choses
Il y a quand même quelque chose qui s'est passé entre le premier et le second, c'est que le premier, je l'ai écrit en étant très attentif à la forme dans laquelle j'allais m'exprimer. C'était ça qui m'importait par-dessus tout. Et dans le deuxième livre, j'ai été beaucoup plus porté par ce que j'avais à dire, ce que j'avais envie de dire, ce que j'avais envie de lire dans un livre. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'effectivement, quand on est passé de ce côté-là, on peut envisager les choses différemment.
Ah oui.
Et c'est-à-dire pas seulement ruser avec soi-même en s'autorisant à écrire un livre quand on voit bien qu'il manque et qu'il le faudrait, mais carrément y aller. Quoi.
Oui, c'est le stade de la ruse est dépassé.
Voilà, je pense.
Donc vous êtes prêt à vous assumer comme écrivain.
Voilà.
Donc plus besoin de faire de traduction, plus besoin de faire... Ouais. Alors, est-ce que, alors sans vouloir trahir quoi que ce soit, vous êtes déjà projeté dans le roman, ou est-ce que ça ne va pas nécessairement être du roman? Est-ce que...
Si j'ai trouvé un super sujet.
D'accord, donc, voilà. Donc la réjouissance de se dire, je suis dans quelque chose, dans la jubilation de l'écriture.
Avec un personnage qui reviendra dans Le Cure-Dent, il y a la figure de ce physicien italien qui s'appelle Ettore Majorana.
Ah oui, alors justement, vous voyez.
Voilà, et donc il va être un des personnages.
On sent que c'est un personnage qui vous fascine. Je suppose que c'est vous qui avez dû dire à l'éditeur de rééditer ce livre paru chez Nado. Vous pourriez nous parler un peu de Majorana? En quoi ce type vous impressionne? Alors que j'ai l'impression qu'il est un peu complètement oublié.
Non, pas du tout. Il est sorti un numéro spécial d'une revue scientifique l'année dernière sur lui.
Donc une revue scientifique lue, j'imagine, par
25.
Non, je ne sais pas si en Italie il est encore très lu, ou si grâce à Chiachia il y a quelque chose qui fait.
Si, il y a un renouveau, bien sûr. D'autant que Ettore Majorana était un physicien de génie qui a décrit des éléments, des éléments de la matière, dont on ne sait pas s'ils existent encore ou pas. Mais oui, alors donc cet homme qui doit être né vers 1906 était un des physiciens européens les plus incroyables, et c'est un type qui a entrevu avant même les expériences d'Otto Hahn en 1939 la possibilité non seulement de la fission des atomes mais de la réaction en chaîne, et qui, ayant compris cette réaction en chaîne, a disparu en ne voulant pas assumer la
réaction. Vous abondez dans cette thèse là
Je pense que oui, le refus de la science devant les dangers de la science.
Non, mais justement, en ne disant pas qu'il n'y a pas de théorie du complot. Que
non,
c'est,
j'ai lu, effectivement, il y a une photo, on le voit avec Eichmann, où on prétend que c'est lui en 51. On dit qu'il a disparu
en Amérique du Sud.
J'ai lu le livre qui est sorti, très mauvais, on n'y croit pas une seconde. Non, je pense qu'effectivement, en tout cas, Chiachia prétend qu'il a retrouvé sa trace dans des couvents en Italie.
Mais de façon très elliptique, hein, il le dit. Enfin, oui. C'est des passages magnifiques, d'ailleurs, de Chiachia.
C'est précisément pour pas...
Pour pas avoir l'air de dire, voilà. Ouais. Mais que...
Enfin, il faut se méfier de Chiachia, parce qu'il n'est pas toujours précis dans ses enquêtes.
Oui, mais justement, dans ses enquêtes, c'est un écrivain. Il a trouvé un sujet... Parfois, il met des éléments, mais on a le sentiment qu'il est à la quête d'un personnage.
Oui, mais enfin, je dis ça parce que son livre sur Raymond Roussel, j'ai des informations qu'il n'avait pas, visiblement.
D'accord. Oui, mais enfin, c'était pas un super enquêteur, puis c'était un Sicilien. Donc, mais donc ce genre de personnage-là suscite quelque chose chez vous. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de disparaître, de se faire disparaître.
En refusant la science, en tournant le dos à la science, oui, ça m'intéresse beaucoup. Oui.
Voilà. Alors, j'ai juste terminé par une belle phrase à propos de l'ivresse. Je ne cite pas la phrase de Debord, mais qui est très belle, mais « Rien dans l'art ne m'a paru donner cette impression de l'éclat sans retour, comme la prose que Guy Debord a employée dans les pages qu'il consacre à la manie de l'alcool. En suivant avec lui le chemin des orphelins, j'ai découvert le relief, l'intensité de couleur, le vrai goût des choses, à la lumière des éclairs, des hautes heures de l'esprit. » Ça, c'est de vous, ça. C'est très beau. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Yves. Bon, mais là, pour la quatrième fois, merci beaucoup, Jean-Yves Lacroix.